ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، après avoir vu plusieurs règles de faire un siyam, le jurisprudence du jeûne, le jeûne du mois de Ramadan de cette année touche malheureusement à sa fin. Et donc on va profiter de cette dernière assise du mercredi pendant le mois de Ramadan pour rappeler les dernières règles essentielles à connaître pour les heures qui vont suivre, les dernières règles essentielles pour les heures qui vont suivre. Comme vous le savez, le musulman, il a l'obligation de donner zakat al-fitr. Et il y a deux types de zakat qui sont obligatoires en islam. C'est zakat al-mal, ce qu'on appelle de manière générale zakat al-mal, et zakat al-fitr. Zakat al-mal, elle concerne les ressources, l'épargne. Et zakat al-fitr, elle concerne ce qu'on donne à la fin du mois de Ramadan. Tout d'abord, la première question qu'on pose dans zakat al-fitr, pourquoi l'islam a prescrit zakat al-fitr? Quelle est la sagesse ou quelles sont les sagesses de zakat al-fitr? Il y a plusieurs sagesses que les savants rappellent à propos de zakat al-fitr. La première, c'est tout simplement se soumettre et obéir à Allah Azza wa Jal. C'est une obligation, c'est un pilier, et comme tous les piliers, on les met en application pour obéir à Allah Azza wa Jal. Ensuite, il y a aussi que c'est une manière de venir corriger et compléter nos manquements et nos carences dans notre pratique du jeûne. Le jeûne est obligatoire. Le jeûne de Ramadan est obligatoire. Est-ce qu'il a été parfait? Sans aucun doute, il n'a pas été parfait, parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des manquements dans la pratique de notre jeûne. Et un des moyens de venir corriger ces manquements, c'est de donner zakat al-fitr. Elle sert aussi à ça, zakat al-fitr. Zakat al-fitr sert également, et ça c'est, tout le monde le comprend, à l'intérêt du pauvre. Le pauvre, le jour de l'Aïd, n'importe quel individu, le jour de l'Aïd, qu'il soit pauvre ou non, il aspire à, en faire un jour de joie, puisque c'est l'essence même du jour de l'Aïd. Et pour en faire un jour de joie, il faut que ce soit un jour de confort, un jour d'aisance. Et donc, zakat al-fitr, on la donne pour qui? On la donne pour les pauvres. Pourquoi? Pour que eux aussi, qui n'ont pas les moyens de faire du jour de l'Aïd un jour de réjouissance, ils puissent trouver ce jour-là les moyens de pouvoir faire du jour de l'Aïd un jour de joie, de bonheur pour eux et pour leurs proches. Non. C'est pour ça que dans certaines versions, il est dit que le professeur Sam a dit « Arnouhum an al-tawafi fi dhalik al-yawm ». Faites en sorte de les enrichir et qu'ils s'autosuffisent ce jour-là contre la mendicité, qu'ils n'aient pas à aller demander et quémander aux gens de l'aide pour pouvoir vivre leur jour de l'Aïd. Donnez zakat al-fitr de sorte à ce que les pauvres, le jour de l'Aïd, ils n'aient pas à aller mendier, ils n'aient pas à aller demander. Non. Et c'est une façon aussi de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité le jour de l'Aïd. Taïb. Ça, c'est ce qui concerne les sagesses. On pourrait discuter d'autres sagesses. Le statut de zakat al-fitr. La majorité des savants considèrent que zakat al-fitr est un wajib, une obligation, dans le sens fard, puisque c'est le quatrième pilier de l'islam. En tout cas, il fait partie de ce qu'on appelle le pilier de zakat. Il y en a le troisième pilier, Afwan, pilier de zakat. Sauf pour les Hanafiyas. Les Hanafiyas disent que zakat al-fitr est obligatoire, mais ils ne le considèrent pas comme un fard. Alors ici, c'est compliqué, ou c'est un petit peu technique, dans le sens où la majorité des savants, pour eux, le terme wajib et fard, ce sont deux synonymes. Fard, ça veut dire pilier, wajib, ça veut dire obligatoire. Les deux, ça veut dire que c'est obligatoire. Les Hanafiyas, ils font, eux, une distinction entre ce qu'ils appellent al-wajib et le fard. Pour eux, le fard, l'obligatoire, c'est le pilier dans le sens des les conséquences que ça va ramener. Si on manque ce fard, ce pilier, il y aura de graves conséquences. Alors que le wajib, pour les hanafiyas, ça reste obligatoire, mais les conséquences seront moindres. On va donner un exemple. Il y en a d'autres, mais on peut en donner un, et ça permet, pour ne pas rentrer dans les complications, de comprendre la distinction que font les hanafites entre ce qui est pilier et ce qui est wajib, entre ce qui est fard et wajib. Le fard, pour les hanafites, si on ne le fait pas, si on le renie, on est dans la mécréance. C'est du kufr. Alors que le wajib, l'obligatoire, c'est une obligation. Il faut le faire. Celui qui ne le fait pas, il est dans le péché, mais s'il le renie, il n'est pas dans le kufr, dans la mécréance. C'est ainsi qu'il distingue entre les deux, Allahu a'lam. Ala kulli hal, pour la grande majorité des savants, pour les quatre écoles de pensée, c'est une obligation, zakat al-fitr. Toute petite minorité de savants, certains savants considéraient que c'était simplement une sunna mu'akkada. Non. Comme certaines branches des littéralistes, Ahl al-Zahir, ils considèrent que c'est une sunna mu'akkada. Ala kulli hal, en tout cas pour la majorité des savants, et les textes vont dans ce sens, c'est une obligation pour chaque musulman. Il y en a le prophète sallam, comme il est rapporté dans les deux authentiques, selon Abu Huraira, farada Rasulullah sallam zakat al-fitri sa'an min tamrin ou sa'an min sha'ir ala al-hurri wal-abdi wal-dhakari wal-untha wal-saghiri wal-kabiri min al-muslimin. Le prophète sallam a rendu obligatoire, a prescrit comme obligation zakat al-fitr en un sa'a. Sa'a, c'est quoi? C'est quatre poignées. C'était un outil de mesure. Quatre poignées de date, quatre poignées d'orge, de grains d'orge, soit quatre poignées de date, soit quatre poignées de grains d'orge, pour chaque personne libre ou esclave, pour chaque personne, qu'il soit un homme ou une femme, un petit ou un grand, il y en a un jeune ou un âgé, parmi les musulmans. Non. Ensuite, qui doit donner zakat al-fitr? Chaque musulman, la majorité des savants considère qu'il n'y a pas de nisab pour zakat al-fitr, contrairement à zakat al-mal. C'est quoi le nisab? C'est le minimum, le seuil qu'il faut avoir pour donner zakat al-fitr, pour donner la zakat. Pour zakat al-mal, on sait que c'est le montant ou la valeur de 85 grammes d'or. Même si là aussi il y a divergence, certains considèrent que c'est avec l'argent qu'il faut compter et pas l'or. Mais à la kulli hal, nous on compte en fonction de 85 grammes d'or pour zakat al-mal. Zakat al-fitr, la majorité des savants considèrent qu'il n'y a pas de nisab. Ils disent c'est quoi en fait, à partir de quel moment on donne? Quand on a de quoi se nourrir pour le jour de l'Aïd et qu'on a de quoi donner en plus pour zakat al-fitr, on le donne. Même si on fait partie de ceux qui la recevront, c'est pas grave, on va recevoir, mais zakat al-fitr, on la donne quand même dans ce cas-là. Il y en a quelqu'un qui a tout juste de quoi se nourrir pour le jour de l'Aïd et de quoi se nourrir pour 3-4 jours à venir. C'est quelqu'un qui est pauvre, qui a besoin de zakat al-fitr. On va lui donner. Ce n'est pas parce qu'il donne zakat al-fitr qu'il ne va pas la recevoir. Non. Ala kulli hal, donc, la plupart des musulmans sont concernés. Dès qu'on a, comme on a dit sur la majorité des savants, de quoi se nourrir ce jour-là, plus un surplus de quoi donner zakat al-fitr, on la donne. Aïwa. Et ça concerne chaque personne membre du foyer. C'est-à-dire la personne donne pour lui et pour ses enfants. Et toutes les personnes qui sont à sa charge régulièrement. Ceux qui vivent sous son toit qui sont à sa charge, c'est lui qui paye. Il y a une petite divergence sur l'épouse. La majorité des savants considèrent que c'est à l'homme de payer sa zakat al-fitr, même si elle a les moyens, même si elle est riche. Et les hanafites disent si elle n'a pas les moyens, c'est l'homme. Si elle a les moyens, c'est une obligation sur la richesse, donc ça doit provenir de ses richesses à elle. Non. Ala kulli hal, donc ça concerne, et évidemment ça concerne les musulmans. Et le professeur Hassan a dit dans le hadith, min al-muslimin, parmi les musulmans. Aïwa. À quel moment on donne zakat al-fitr à présent? Zakat al-fitr, selon la majorité des savants, elle devient obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la donner avant, mais à partir de quel moment là, on commence à être en retard, il faut la donner, elle devient obligatoire au coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. C'est-à-dire, Al-Maghrib aujourd'hui, on rentre dans l'obligation. Il faut se presser, il faut commencer à y réfléchir et se presser à donner Zakat al-Fitr, à sortir Zakat al-Fitr et la donner. Selon la Hanafiya, son obligation commence au lever à l'aube, au lever de l'aube du jour de l'Aïd, c'est-à-dire à 4h26-27 de demain matin. Et ça s'arrête pour tout le monde à la prière de l'Aïd, c'est-à-dire après la prière de l'Aïd, on a dépassé le moment où il faut donner Zakat al-Fitr. La majorité des savants, pour ça, on a dit à partir de quel moment ça devient obligatoire. Mais on a dit, ce n'est pas parce que ça devient obligatoire à ce moment-là qu'on ne peut pas la donner avant. Eh bien, la majorité des savants, pour ce qui est de la donner avant, ils disent un jour ou deux jours avant l'Aïd, il est permis de la donner. Et certains savants ont été jusqu'à dire à partir du milieu de Ramadan, et même certains ont dit, à partir, dès que le Ramadan commence, on peut commencer à donner Zakat al-Fitr. Non. C'est un avis minoritaire, mais c'est un avis rassurant et convaincant. Il a été très bien développé par Al-Qardaoui dans son livre Fiqh al-Zakah, où il explique, alors ici ce sera un petit peu technique et le temps ne nous le permet pas, mais il explique qu'il y a, quand il y a une prescription religieuse, où il y a ce qu'on appelle la charte et le sabab, la condition et la causalité de cette prescription. Lorsque les deux, on les comprend, on les voit, alors il suffit qu'il y en a un des deux qui soit rempli pour donner cette obligation. Et Zakat al-Fitr est concerné par cette règle. Il y a un charte, il y a un sabab. Et le sabab, c'est quoi? C'est Ramadan. C'est le mois de Ramadan. Donc dès que le sabab est arrivé, on n'est pas obligé d'attendre la condition. On peut tout de suite le donner. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, en tous les cas, si on peut la donner vers la fin de Ramadan et on sait qu'en la donnant à la fin de Ramadan, ça va parvenir aux pauvres pour le Eid, alors c'est mieux d'attendre la fin de Ramadan pour rentrer dans les clous et l'avis de la majorité. Mais si on sait que ça risque de retarder parce qu'on va le temps de la distribuer ou parce qu'on l'envoie loin, même si la priorité c'est de la donner aux pauvres autour de nous, dans le pays dans lequel on vit, et que le seul moyen de leur faire parvenir pour le jour de l'Aïd et qu'ils en profitent le jour de l'Aïd, c'est de la donner le plus tôt possible, alors on la donne le plus tôt possible. Parce que ce qui compte au final, c'est ça, c'est cet intérêt-là, l'intérêt du pauvre. Wallahu a'lam. Ensuite, la question redondante et qui revient chaque année, c'est est-ce qu'il est permis ou non de la donner en argent? Beaucoup, en particulier sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous verrez, comme on dit régulièrement, que beaucoup interdisent de la donner en argent ou vont jusqu'à dire que la sunna, c'est uniquement la donner en denrées alimentaires. Ou même certains vont jusqu'à dire qu'il y a consensus sur le sujet, unanimité. Tous les savants disent qu'il faut la donner en denrées alimentaires et qu'on ne peut pas la donner en autre chose que denrées alimentaires. Alors ça, ce sont des fausses idées reçues. Et c'est ce que j'appelle, moi, de la malhonnêteté intellectuelle. Soit la personne y prouve en disant ça qu'il est ignorant, soit pire que l'ignorance, c'est un grand menteur parce qu'il sait qu'il y a divergence et il prétend qu'il y a unanimité. Je rappelle simplement que certes, si on considère les quatre écoles de pensée, et quand je dis les quatre écoles de pensée, je ne parle pas des savants qui sont dans ces écoles-là, mais je parle des fondateurs de ces écoles, c'est-à-dire l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmad. Si on considère ces quatre fondateurs, alors on dira la majorité disent qu'il faut la donner en denrées alimentaires, c'est-à-dire l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmad. Quant à l'imam Abu Hanifa, lui, il disait on peut la donner en autre chose qu'en denrées alimentaires ou en argent. Aïwa. Maintenant, si on dit, on prend tous les savants depuis avant jusqu'à aujourd'hui, et qu'on essaie de faire le compte où elle est la majorité, personnellement, je n'ai pas fait le compte. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse continuer à dire que vraiment la majorité toutes les écoles de pensée des savants sont convaincus qu'il faille la donner en denrées alimentaires et qu'il n'est pas permis de la donner surtout en argent. Parce que c'est la question. Tous les savants sont d'accord pour dire que si on la donne en denrées alimentaires, c'est bien. On a rempli son obligation. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut au lieu de la donner en denrées alimentaires, la donner en autre chose, comme par exemple en argent. Et ça pourrait être en habits, ça pourrait être en autre chose. Est-ce qu'on peut la donner en autre chose qu'en denrées alimentaires? C'est ça la question. Non. Eh bien, on a cité Abu Hanifa, juste pour prouver qu'il n'y a pas unanimité sur la question. Il y a Abu Hanifa qui est de l'avis qu'on peut la donner en autre chose qu'en denrées, en argent par exemple. On sait que ça a été l'action du compagnon, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu. Il a changé la valeur de la denrée. On sait que ça a été l'ordre du calife Omar ibn Abd al-Aziz. Pendant son califat, il a ordonné dans toutes les contrées de son califat qu'elle ne soit donnée qu'en argent. Parce que c'était plus simple pour lui et plus utile pour le pauvre. On sait que des grands savants de l'école de pensée malikite étaient de cet avis, comme l'imam Asbour, ou l'imam Ibn Habib, ou l'imam Ashhab, ou encore Ibn Qasim. C'est des grands élèves de l'imam Malik et c'est des grands savants de l'école de pensée malikite. On sait que Tahawi, qui est un grand muhadith de l'école de pensée hanafite, était de cet avis. On sait que l'imam Bukhari, quand on dit Bukhari, je n'ai pas besoin d'expliquer qui est le Bukhari. C'est lui qui a écrit l'authentique. Eh bien, le Bukhari, lui, il a carrément intitulé un chapitre qui va dans ce sens. Et dans Fath al-Bari, Ibn Hajar al-Asqalani, quand il commente ce titre, il dit, le savant Ibn Rushayd explique que le Bukhari, contrairement à son habitude, pour Zakat al-Fitr, le fait de la donner en argent, en autre chose qu'en denrée, il va et il penche vers l'avis des Hanafites, alors que le Bukhari a souvent l'habitude d'être en désaccord total avec les Hanafites. Mais ici, il est d'accord avec eux. Ibn Rushayd, il dit « Wa qadahu ila dhalika ad-dalil » Et c'est la preuve qui l'a conduit à faire ça. Bien, le Bukhari, il est honnête avec lui-même. Quand il n'est pas d'accord, c'est par rapport aux arguments. Ce n'est pas juste qu'il n'est pas d'accord avec l'école de pensée. Et là, il a considéré que la preuve, et lui, il a accès aux preuves, c'est quand même le rédacteur de As-Sahih, la preuve l'a conduit à conclure qu'on peut la donner en argent. Non. On peut citer Abu Ishaq al-Subayri, qui est un des tabi'i de la génération moyenne. Il y a trois grandes générations dans les tabi'i, la première, la seconde et la dernière. Lui, il est dans la génération du milieu. La génération du milieu, ça veut dire quoi ? Et des derniers compagnons. On sait que Abu Ishaq al-Subayri a connu un compagnon comme Ali, radiyallahu anhu, et d'autres. Puisque quand il y avait le califat d'Ali, il y avait encore beaucoup de compagnons qui vivaient. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Adraktuhum ». Je me rappelle d'eux. En parlant de qui ? En parlant des derniers compagnons vivants à son époque et des premiers tabi'i. Je me rappelle qu'ils avaient l'habitude de donner zakat al-fitr en valeur de la denrée alimentaire. C'est-à-dire qu'ils calculaient la denrée, elle vaut à peu près ça, et bien on donne en son montant. Il parle des compagnons avec qui il a vécu et de la première génération des tabi'i. Non. Ensuite, on peut citer le savant Ibn Abi Shayba, qui a, dans son Moussannaf, dans son recueil de hadith, intitulé un chapitre et ramené dedans des arguments, qu'il intitule « Bab i'ta'u zakat al-fitr bid-darahim bi-qimati al-ta'a ». Le chapitre de donner zakat al-fitr en dirham équivalent au montant de la denrée alimentaire. Et tous les noms que je vous cite là, c'est les premiers siècles de l'islam, parce que certains ils disent « Non, c'est une innovation, ça vient d'exister aujourd'hui. » C'était avant. Bien avant. Non. À la kulli hal, on pourrait citer encore bien d'autres. On peut citer le Qardawi qui a développé la question à n'en plus finir dans son livre « Fiqh al-Zaka » et il a ramené tous les arguments possibles pour montrer que c'est permis. On peut citer Ahmad bin Siddiq al-Ghumari qui a fait un très bel ouvrage sur le sujet qu'il a intitulé « Tahqiq al-Amal fi ikhraj zakat al-fitr bil-mal » et il a écrit cet ouvrage dans les années 40 déjà, dans lequel il donne plus de 30 preuves, en tout cas ce que lui considère comme des preuves et des arguments, qui montrent non seulement qu'il est permis de la donner en argent, mais selon lui, qui montre qu'il est mieux de la donner à notre époque en argent. Non. Donc ça montre déjà une chose, qu'il n'y a pas, comme certains veulent le faire croire, unanimité sur la question, où la sunna est juste de la donner en dirham alimentaire, on n'a rien d'autre. Ça, c'est du mensonge. Ou, au mieux, de l'ignorance. Non. À présent, c'est quoi le nœud du problème? Pourquoi il y a une divergence à ce sujet? C'est simple. Il faut simplifier les choses pour comprendre. Il y a ceux qui vous diront, le professeur Salim ne l'a jamais donné en autre chose qu'en denrée alimentaire. Et les compagnons ne l'ont jamais donné en autre chose qu'en denrée alimentaire, donc il faut la donner en denrée alimentaire. Taïb. Mais ce n'est pas ça le nœud du problème. Parce que nous, on peut dire, on vient de le prouver, des compagnons qui l'ont donné en autre chose que ce que ça avait été clairement prescrit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, eux-mêmes, ils utilisent des preuves qu'on peut utiliser contre eux. Par exemple, le fameux hadith d'Abu Sa'id al-Khudri que tout le monde utilise pour dire qu'il faut la donner uniquement en denrées alimentaires. Il dit, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, « Kunna nukhriju zakat al-fitri idh kana fina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa'an min ta'am aw sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir aw sa'an min zabib aw sa'an min aqit. » Nous avions l'habitude de donner zakat al-fitr alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous. Ça veut dire que ce n'est pas le professeur Hassan qui la donne comme ça, mais il était encore vivant. Parce que le hadith qui montre comment le professeur Hassan a dit qu'il fallait la donner et comment il l'a donné soit en date, soit en grain d'orge. Il n'y a rien d'autre. Et là, Abu Sa'id al-Khadri, il nous rajoute quelque chose. Sa'an min ta'am, de manière générale. Un sa', quatre poignées de nourriture. Ou de date. Ou d'orge. Ou de raisin sec. Ou d'aqit. Aqit, c'est une sorte de camembert de fromage de l'époque. Et ici, les savants qui disent qu'il est permis de la donner entre choses, ils disent Abu Sa'id al-Khudri montre justement, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri montre qu'on peut la donner, qu'on peut faire l'équivalent en autre chose. Après, la divergence, elle est où? C'est est-ce qu'on peut sortir des denrées alimentaires ou on doit rester dans les denrées alimentaires? Aïwa. Eh bien, pour répondre à cette question, pour comprendre la divergence, elle est où? Elle est comme ce qu'on avait dit au début du mois sur la vision lunaire, sur le calcul astronomique. Est-ce qu'on peut utiliser le calcul astronomique pour déterminer le début du ramadan ou pas? Cette question, c'est, est-ce que zakat al-fitr, tous les savants sont d'accord pour dire que c'est une adoration, un acte d'adoration. Mais en plus d'être un acte d'adoration, est-ce que le fait de la donner en denrées alimentaires, c'est un moyen de réaliser un objectif? Ou alors, ce n'est pas un moyen, c'est un objectif. Il faut la donner en denrées alimentaires parce que c'est en la donnant en denrées alimentaires qu'on remplit un objectif. Si on dit que la donner en denrées alimentaires, c'est pour remplir un objectif, cet objectif, c'est quoi? C'est de faire du bien aux pauvres et de leur rentrer la joie dans leur cœur et dans leur foyer le jour de l'Aïd. Dans ce cas-là, on dit ce moyen-là, il peut réaliser cet objectif et d'autres moyens peuvent réaliser cet objectif. La donner en argent, à notre époque, non seulement elle peut réaliser cet objectif, et je vais même aller plus loin, elle réalisera mieux cet objectif. Pourquoi? Parce que, mettez-vous à la place d'un pauvre, vous êtes pauvre. Un pauvre en France aujourd'hui, est-ce qu'il est dans le besoin alimentaire? Quand je parle du besoin alimentaire, c'est pas n'importe quel besoin alimentaire, il a peut-être besoin de viande, sahih. Les gens ne donnent pas de la viande à Zakat al-Fitr, ils donnent des pâtes et du riz. Et c'est justement le pauvre en France en 2021, il a les tickets pour aller au secours des Restos du Cœur ou le secours catholique ou la je ne sais où. Et avec ces tickets, qu'est-ce qu'on lui donne le plus? Des pâtes et du riz. C'est-à-dire tous les jours, il a les pâtes et du riz. Et toi, tu vas lui ramener des pâtes et du riz le jour de l'Aïd. Quelle est la différence pour lui dans tous les jours? Aucune. Les gens vont dire, mais au temps du professeur Salem, les pauvres, les plus bas, ils étaient dans un besoin alimentaire. Le professeur Hassan lui-même, on nous dit que quelquefois, il ne trouvait pas à manger. C'était ça la pauvreté au temps du professeur Hassan al-Madina. Le jour même, on ne savait pas si on allait manger. Les pauvres, c'était ça, Yarni. Le professeur Hassan, Aïcha radiallahu anha, nous disait, il y avait des mois entiers qui passaient sans qu'il n'ait allumé un feu pour faire à manger. C'est-à-dire, il ne mangeait que des choses sèches. Il n'y avait rien pour faire cuire quelque chose. Il fallait avoir et on n'avait pas. On avait quelques dattes par-ci, quelque chose à grignoter par-là, de sec, de froid, c'est tout. Donc le premier besoin à l'époque des pauvres, il était alimentaire. Et surtout, quand on leur ramenait des dattes, par exemple, à l'époque, les dattes, nous, on comprend les dattes, c'est quoi pour nous les dattes? C'est ce que tu manges à côté de l'harira, ou de la shorba, ou que tu grignotes un petit peu à côté d'Ataï, c'est juste quelque chose à côté. À l'époque, on a des textes qui nous montrent qu'avec les dattes, on faisait même des recettes. Le calife Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a trouvé la fameuse veuve avec les trois enfants, il mourait de faim, la femme n'avait rien à leur offrir à manger à ses enfants. Elle faisait bouillir de l'eau pour faire croire à ses enfants qu'elle faisait à manger. Qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit qu'il est parti à Bayt al-Mal, il a pris de la farine, il a pris un peu de miel et il a pris des dattes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la farine, plus des dattes et du miel? Bien, lui, il est venu, lui-même, il a cuisiné quelque chose avec ça. Avec ça, il fait une recette qui était connue à l'époque et qui était très bonne à manger. Il a pris les dattes, il a enlevé le noyau, il les a écrasées, il a fait cuire, il a fait malaxer la farine pour en faire une pâte avec l'eau, il a mélangé avec le miel et les dattes écrasées, il les a fait cuire et ça a donné un repas succulent pour cette veuve. Il y en a avec les dattes, on pouvait faire quelque chose. Nous, pour nous, les dattes, on n'a pas cette culture gastronomique, pour nous, les dattes, on va grignoter. Non. À la kulli hal, tout ça pour dire quoi? Pour dire que si tu considères que donner zakat al-fitr en denrées alimentaires, c'est ça l'objectif. Tu ne peux pas comprendre pourquoi ça a été prescrit en denrées alimentaires. Ce n'est pas un moyen d'arriver à quelque chose. Alors oui, il n'est pas permis de la donner en autre chose qu'en denrées alimentaires. Mais si tu comprends dans le fait de la donner en denrées alimentaires que c'est pour concrétiser, réaliser un intérêt, c'est l'intérêt du pauvre, alors dans ce cas-là, sans aucun doute, à notre époque, Ibn Taymiyyah rahmatullah disait, par exemple, lui, il a pris un avis dans le juste milieu. Il disait, il est mieux de la donner en denrées alimentaires parce que les textes parlent clairement de la denrée alimentaire. Mais si on est dans un peuple ou dans une époque où il est plus utile et dans l'intérêt du pauvre de lui donner en autre chose qu'en denrées alimentaires, alors il faut lui donner en autre chose qu'en denrées alimentaires. C'est-à-dire, Ibn Taymiyyah rahmatullah, il dit, al-asl, la base, c'est de la donner en denrées alimentaires. Mais si quelque chose, un argument fait que je considère qu'il est mieux dans l'intérêt du pauvre de lui donner en autre chose, alors je lui donne en autre chose. Peut-être que c'est des habits, peut-être que c'est de l'argent, etc., etc. Aujourd'hui, à notre époque, à vous de voir. Chacun vit et il sait ce qu'il a besoin à la fin du mois. Est-ce qu'il a besoin de plus de paquets de riz et de plus de paquets de pâtes, ou il a besoin de plus d'argent pour pouvoir payer ses factures, pour pouvoir même acheter des denrées alimentaires qu'il va avoir besoin, mais qu'il n'a jamais l'habitude d'avoir, comme de la viande, etc., pour le jour de l'Aïd, parce que ce n'est pas son habitude, etc., etc. À toi de te poser la question. Non. Et d'ailleurs même, certains, comme Ahmed ibn Siddiq al-Romari, dans le livre qu'on a cité tout à l'heure, ils prennent des arguments comme la fameuse règle, al-qa'ida al-fiqhiyya, qui dit, la règle de fiqh qui dit, al-mashaqqa tajlibu al-taysir. La difficulté entraînera forcément la facilité. Et il dit à notre époque, donc lui il parle déjà dans les années 40 du siècle dernier, il dit à notre époque, la donnée en denrées alimentaires procure une difficulté à la fois pour celui qui donne et celui qui reçoit. Il dit celui qui donne, ben il n'a pas chez lui. Avant, on avait chez nous des gros sacs de récolte parce que les gens ils vivaient de ça, c'était leur ras al-mal, comme on dit, leur capital. Il dit à notre époque, non. À ton époque, tu as de l'argent. Et avec cet argent, si tu veux en faire quelque chose, tu vas au magasin et tu dois acheter. Donc il faut aller jusqu'au magasin, il faut aller regarder combien tu as besoin de riz, combien tu as besoin de pâtes, calculer le montant, etc., pour après le donner aux pauvres. Alors qu'en fait, à la base, tu as l'argent et il suffisait de donner l'argent. Donc c'est plus simple pour le donateur de donner en argent. Et il dit, et c'est plus simple aussi pour celui qui la reçoit. Parce que celui qui reçoit l'argent, il pourra faire ce qu'il veut le jour de l'Aïd avec. Alors qu'avant, quand il avait de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? Demandez juste à vos parents. Ce n'est pas la peine d'aller à l'époque du professeur. Demandez à vos parents, dans les années 60, ils vivaient à la montagne, à Douar. Ils ne peuvent rien faire avec l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, il va l'utiliser le jour de souk. Il va aller au marché, et c'est le jour du souk, et le souk, il n'est pas ouvert le jour du Aïd. Donc il va recevoir de l'argent, ça ne va pas lui être utile le jour de l'Aïd. Par contre, si on lui donne un paquet de blé, même en grain, hein, qui n'est pas moulu, yani. Ben chez lui, il a le moulin. Pour ceux qui vont dans leur pays d'origine à la campagne, le moulin comme ça, pire, dans chaque maison en terre cuite, chez les paysans, ils l'ont. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ont un peu de blé, ils le mettent dedans. Ils font quelques tours comme ça, ça leur donne de la farine, et avec cette farine, ils vont te faire les galettes, ils vont te faire le pain, ils vont te faire le msemen, ils vont te faire le barrir, ils vont tout te faire avec. Aujourd'hui, donne des grains de blé à quelqu'un qui vit en 2021, comme il dit Cheikh Mustafa Ben Hamza, dans Natihat Sahab, dans les hauts tours, tout en haut à l'étage, donne-lui des grains de blé, tu vas voir ce qu'il va faire avec. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Soit il va les jeter, il va les mettre de côté, soit il va l'échanger contre quelque chose, soit il va le vendre pour essayer d'avoir quelque chose en échange. Et bien, c'est tout ça qu'il faut regarder. À la kulli hal, tout ça pour dire que nous, on n'est pas fermé, on ne dit pas qu'il ne faut pas la donner en denrées alimentaires, mais nous disons tout d'abord qu'il y a divergence sur le sujet. Et enfin, Allahu a'lam, il suffit de réfléchir un petit peu pour considérer qu'il est mieux et plus utile pour le pauvre de lui donner en argent à notre époque. Na'am. Et espérons qu'Allah azawajal ne fasse pas que nous soyons un jour à la place des pauvres et qu'on attende avec impatience que le jour de l'Aïd arrive, mais qu'au lieu de nous donner de l'argent pour qu'on puisse faire ce qu'on veut avec, qu'on nous donne à la place. Une fois, on a même vu quelqu'un qui a ramené des boîtes de conserve de thon à la catalane. Yani. Ça va jusque-là. C'est pas pour vouloir dénigrer, mais avec, tu vas donner ça aux pauvres le jour de l'Aïd. Yani. En quoi tu l'as réjoui le jour de l'Aïd? C'est à ça qu'il faut réfléchir. Yani. Donc c'est pour réaliser cet objectif. Non. Alors très rapidement, le deuxième point, c'était l'Aïd. L'Aïd, il y a des règles à respecter. La première, c'est justement Zakat al-Fitr. Il faut la donner avant la prière de l'Aïd. Ensuite, le jour de l'Aïd, il est fortement recommandé d'assister à la prière de l'Aïd. Mais on est dans un contexte particulier. Donc quelqu'un qui considère qu'il est vulnérable ou fragile, Inch'Allah, khair liyanna salat l'Aïd, elle reste sunna mu'akkada pour la majorité des savants. Wallahu a'lam. Ensuite, il est recommandé en temps normal de ramener le plus personnes de membres de sa famille, comme les femmes et les enfants. Mais ici, les mosquées, soit elles n'ouvrent pas pour l'Aïd, comme les mosquées de Lille, par exemple, et elles ne vont pas faire l'Aïd parce que c'est trop compliqué à organiser avec la distance et faire en sorte que tout le monde puisse y participer. C'est juste impossible dans les mosquées, de Lille en tout cas. Et donc, soit vous avez des mosquées qui ne font pas du tout la prière de l'Aïd, soit la plupart des mosquées qui le font comme nous, il n'y a pas d'accès aux enfants et pas d'accès aux femmes exceptionnellement à cause du contexte. Non. Ensuite, là, les choses qu'on peut respecter, c'est que le jour de l'Aïd, c'est un jour de joie. Et le jour de joie, il faut faire en sorte qu'on le remarque. Et la première chose, c'est d'envoyer avec ton épouse et tes enfants. Même s'il y a quelque chose qui te met en colère, ce n'est pas le jour pour se mettre en colère. Même si les enfants, ils méritent peut-être ce jour-là que tu les grondes. Je ne vais pas dire une raclée, parce que maintenant, c'est interdit de mettre une raclée à ses enfants. Donc, juste que tu les grondes, eh bien, gronde-les pas ce jour-là. Non. Et mets en place les choses dans ta demeure et dans ta famille pour que tout le monde remarque que c'est un jour de joie. Et ça, c'est très important pour nos enfants parce qu'ils vivent dans une société qui n'est pas musulmane et il faut faire en sorte qu'ils remarquent la différence avec le jour de l'Aïd. Que le jour de l'Aïd, c'est quelque chose d'autre pour eux. C'est quelque chose de formidable pour eux. Il faut qu'ils aient des étoiles dans les yeux, comme on dit. Non. Donc, fais ce que tu veux, mais il faut que tu mettes le paquet, Inch'Allah. Ensuite, le jour de l'Aïd, il faut que tu t'habilles de la meilleure des manières. Le prophète mettait son meilleur habit pour le jour de l'Aïd. Que tu te fasses beau en te parfumant, en te coiffant, etc. Si tu vas à la salle de l'Aïd, il est recommandé d'aller par un chemin et de retourner à ta maison par un autre chemin, sunnah, d'emprunter un chemin différent à l'aller et un chemin différent au retour. Non. Il est recommandé pour Aïd al-Fitr de manger ne serait-ce que quelques dattes avant de partir à la prière. Non, parce que c'est un jour où on ne jeûne pas. Donc il faut ne serait-ce qu'avoir mangé un petit peu avant de partir, comme prendre quelques dates et ensuite tu pars à la prière. Non. Et rendre visite, faire salat al-arham, rendre visite, renforcer les liens de parenté. Et s'il y a des gens avec qui tu as des malentendus, c'est l'occasion ou jamais de te réconcilier avec eux. Non. Barakallahu fikoum pour votre attention. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين